Vous écoutez RTL.
Il est exactement 10h.
RTL Matin.
Le 10h, Yann Boucherie, Bernard Poirette.
Yann, bonjour.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
Ce soir, les comptes publics de la France basculent dans le rouge. Et à partir de demain, notre pays commence à vivre à crédit.
C'est le résultat d'une étude qui a calculé le rythme des dépenses dans les 28 États de l'Union européenne. Les mails d'Amélie Coulibaly ont parlé. Le tueur de l'hypercachère et les frères Kouachi auraient suivi les consignes d'un donneur d'ordre lors des attentats du mois de janvier dernier à Paris. La COP21, la conférence sur le climat, débute le 30 novembre. Réunion d'une soixantaine de ministres des Affaires étrangères aujourd'hui dans la capitale afin d'améliorer le texte de base en vue des prochaines négociations. Et puis le sport et le football. Dernier derby de l'histoire au Stade Gerland, c'est bien sûr Lyon-Saint-Étienne.
Rassurez-vous, il n'y a pas de banqueroute en perspective là dans les prochaines heures. Il n'empêche que ce soir à minuit, la France aura épuisé ses recettes 53 jours avant la fin de l'année fiscale.
Notre pays va donc vivre de l'emprunt et ainsi creuser sa dette. Mais il n'est pas le seul. Selon une enquête de l'Institut Molinari, ils sont 4 seulement dans l'Union européenne à ne pas avoir besoin de vivre à crédit. Jacques Serret, bonjour.
Bonjour.
Et si l'on regarde de près, la France se situe quand même en queue de classement.
Oui, avec un déficit budgétaire de plus de 70 milliards d'euros, notre pays est pratiquement au niveau du Portugal, de l'Espagne, de Chypre, des États en difficulté financière qui, sur l'exercice 2015, ont vu leur compte basculer dans le rouge dès le mois d'octobre. Nous, c'est maintenant, début novembre, car comme n'importe quelle entreprise ou foyer, notre pays a ses dépenses et ses recettes. Le problème, c'est qu'entre les deux, la balance n'est pas du tout à l'équilibre, plombée notamment par la sécurité sociale. Aujourd'hui, 53 jours avant la fin de l'année, toutes les recettes ont été dépensées, il faut emprunter. D'ici le 31 décembre, le déficit va donc se creuser de jour en jour. Rien à voir avec le haut du tableau européen en tête. L'Allemagne, le Danemark, l'Estonie et la Lituanie, 4 pays qui à la fin de l'année ont un solde positif ou nul et n'empruntent pas un sou grâce à leurs recettes fiscales.
Merci beaucoup Jacques Serret. Une information pour les 7 millions de clients de BNP Paribas. Le premier groupe bancaire français va faire payer des frais de tenue de compte à partir du 1er janvier. 2,50€ par mois ou 2€ pour ceux qui reçoivent leur relevé par internet. Une mesure également programmée par la Société Générale au tarif de 2€ à partir de 2016.
Les attaques de Charlie Hebdo et de l'hypercachère de la Porte de Vincennes auraient été planifiées de l'étranger. Les enquêteurs français sont parvenus à cette conclusion après avoir retrouvé les emails d'Amédie Coulibaly.
Oui, un commanditaire pour le moment inconnu, Nicolas Burnand, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez pu avoir accès à ces courriers électroniques. La police commence à reconstituer le puzzle des événements.
Oui, elle a fait appel à un expert en cybercriminalité pour lire ces messages en grande partie cryptés par Coulibaly. Son correspondant écrit en français dans un langage peu élaboré depuis une adresse basée à l'étranger. Les indications sont précises. Fais ce que tu as à faire aujourd'hui. Il poursuit. Tu planques. C'est envoyé 2 heures après la tuerie de Charlie Hebdo. Amédie Coulibaly lui répond en donnant des indications sur son arsenal. J'ai un fusil d'assaut avec 275 cartouches. Le lendemain, un dernier message. Si possible, trouver et travailler avec Zigoto. Zigoto pourrait faire référence aux frères Kouachi. Ils ont d'ailleurs toujours affirmé agir en concertation avec Coulibaly. Mais là, c'est la première fois qu'apparaît dans cette enquête l'idée qu'une même source à l'étranger aurait pu coordonner les attentats de janvier.
Et les enquêteurs sont également convaincus maintenant qu'Amédie Coulibaly est responsable de 2 autres attaques restées jusqu'ici plutôt mystérieuses.
Oui, d'abord l'agression d'un jogger le premier jour des attentats. Il a été victime de tirs à Fontenay-aux-Roses à proximité du domicile de Coulibaly. Les enquêteurs s'appuient sur un témoignage clé, le gérant d'une pizzeria de Gentilly, située seulement à 25 minutes du lieu de l'agression. Celui-ci a vu arriver ce soir-là Mehdi Coulibaly vêtu d'un gilet de combat, un gros sac à la main. Coulibaly serait également responsable de l'explosion d'une voiture le lendemain dans une rue de Villejuif. Des traces d'explosifs ont été retrouvées et la composition chimique est quasiment la même que les bâtons de dynamite saisis dans le magasin Hypercacher.
Merci Nicolas Burnand. À l'étranger, les élections législatives ont débuté ce matin en Birmanie. L'opposante Aung San Suu Kyi a voté, entourée de centaines de journalistes. Ce scrutin pourrait porter au pouvoir, pour la première fois, le parti de l'ancienne prix Nobel de la paix. Puis au Proche-Orient, nouvelle tension ce matin avec une attaque à la voiture Bélier en Cisjordanie. L'assaillant palestinien a été tué et 3 Israéliens ont été blessés.
Une majorité de Français se sent concernés par la COP21, c'est-à-dire la conférence sur le climat, qui se tiendra à partir de la fin novembre. novembre à Paris.
57% des sondés se déclarent intéressés par ce rendez-vous sur l'avenir de la planète, selon une enquête IFOP pour le JDD. Mais le succès, bien sûr, n'est pas garanti. Encore faut-il trouver s'accorder en préambule sur une base de travail commune. Alors, trouver ce compromis, c'est la tâche d'une soixantaine de ministres du monde entier réunis jusqu'à mardi dans la capitale, Sophie Jousselin.
Oui, à la fin du mois d'octobre, les diplomates de tous les pays participant à la réunion sur le climat se sont réunis à Bonn. Ils ont mené les dernières négociations qui auraient dû aboutir à un texte prédigéré, servant de base aux discussions de Paris. Mais il en est sorti un texte trop long de 55 pages avec de nombreuses options pas tranchées, ne laissant donc pas présager un accord mi-décembre à Paris. La balle est donc aujourd'hui dans le camp des politiques qui vont devoir progresser vers une simplification du texte. Laurent Fabius a d'ailleurs qualifié cette pré-COP d'étape majeure vers un accord. Les politiques devront avancer sur les grands thèmes de la conférence, notamment le financement, mais aussi le principe d'une clause de révision. Elle permettrait tous les 5 ans de redéfinir des objectifs plus sévères pour arriver à réduire à 2 degrés la hausse des températures d'ici la fin du siècle, car on sait déjà que les engagements pris par les pays participants à la réunion de Paris ne seront pas suffisants. On est pour l'instant sur une augmentation de 3 degrés d'ici 2100.
Les précisions de Sophie Jousselin. Et puis il s'agit peut-être d'une conséquence des dérèglements climatiques. Le plus gros silure du monde a été pêché en France sur le Petit Rhône dans le département du Gard. Le record a été constaté par huissier de justice. Le poisson mesurait 2,73 m et pesait 130 kg. L'auteur de la capture qui pêchait au bord l'a ensuite remis à l'eau. C'était évidemment un peu grand pour le congélateur.
Et on l'a eu au téléphone ce pêcheur il y a quelques minutes, mais malheureusement il ne veut pas s'exprimer sur cette pêche miraculeuse.
Au chapitre politique, le FN arriverait en tête du premier tour des régionales en Alsace-Lorraine-Champagne-Ardenne, selon une enquête du Parisien. Aujourd'hui en France, 32% pour le parti de Marine Le Pen, contre 30% à la liste de droite et 19% pour celle du Parti Socialiste. Au deuxième tour, les Républicains et ses alliés l'emporteraient 37% contre 35% au Front National et 28% à la liste de gauche. Et puis à noter, l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI sera Myriam El Khomri, la ministre du Travail. Rendez-vous à 12h30 avec Elisabeth Martichoux.
Il est 10h07 exactement. Passons au sport. Yann, voici un match que les supporters des deux équipes attendent chaque année avec beaucoup d'impatience. Le derby entre Lyon et Saint-Etienne va intervenir ce soir en clôture de la 13e journée de Ligue 1.
Le dernier duel de la sorte au stade Gerland puisque l'OL intégrera son stade des Lumières le 9 janvier prochain. Lyon-Saint-Etienne, la rivalité perdure depuis des décennies et les anciens acteurs n'ont rien oublié de ces joutes acharnées, Willy Maisonnas.
Indiscutablement, oui, émotion et même nostalgie chez le meilleur buteur de l'histoire de ces derbies, Fleury Dinalo, petit prince de ce stade de Gerland dont il s'inquiète déjà pour le futur.
Je ne sais pas ce qu'il va devenir, si c'est le rugby qui va jouer, mais enfin, bon, ça fait vraiment de la peine.
Sentiment de tristesse qu'a souvent éprouvé Bernard Lacombe dans les années 70-80, les années vertes, sur le terrain, mais aussi dans les gradins, comme ce soir d'octobre 69.
Saint-Etienne avait joué le mercredi soir contre le Bayern de Munich, et nous, les gamins, on dit c'est bon, ils seront fatigués, et on est monté à la tribune, il y avait déjà 1-0 ou 2-0, il y a eu 7-1. Qui me restera jusqu'à la fin de mes jours.
Alors impossible, heureusement pour lui, d'oublier d'autres soirées plus heureuses aussi, notamment ce derby carnaval en 2006, sacré champion de France le week-end précédent, Govou et sa bande étrillent les verts 4-0, tête grimée et bombe à serpentin en main.
Quand on se maquille, personne ne sait, et on arrive à la causerie maquillée. Donc le coach rigole un peu jaune, et le pire c'est le président.
Ces brûlants rendez-vous rhône-alpins, de toute façon, tournent très rarement à l'ordinaire.
Et Mathieu Valbuena est dans le groupe lyonnais ce soir, malgré le chantage dont il a été victime. Le JDD annonce justement ce matin que Karim Benzema aurait appelé le joueur de l'OL peu après la révélation de l'affaire de la sextape. Lyon-Saint-Etienne, c'est à vivre sur RTL, bien sûr, dans Soir de Ligue 1, tout comme Bordeaux-Monaco, également à 21h. Auparavant, à 17h, Marseille reçoit Nice. Hier, Paris a battu Toulouse 5-0. Victoire de Montpellier face à Nantes et de Caen devant Guingamp 2-1. Succès de Lorient face à 3, 4-1. Un but partout entre Lille et Bastia. Le Gazélec Ajaccio l'emporte à Reims 2-1. Au classement, le PSG compte 11 points d'avance sur Caen. Et puis un mot de tennis, bien sûr, la finale du tournoi de Bercy opposera cet après-midi Novak Djokovic à Andy Murray.
Encore beaucoup de soleil aujourd'hui, ça vous le savez. Et peut-être du coup, l'une des dernières occasions de sortir son maillot de bain.
Et oui, avant de le ranger définitivement dans l'armoire, car il faudra en changer pour être à la mode l'an prochain. Justement, le salon Marais di Moda s'est tenu cette semaine à Cannes. Nouvelle tendance dévoilée par notre correspondant Julien Fautrin.
En 2016, n'hésitez plus une seconde, optez pour des couleurs qui flashent, des maillots fluo, avec une nette préférence pour le bleu. Il y en a partout, du plus clair au plus foncé. Valérie Charrier dirige un magazine spécialisé.
Il y a aussi pas mal d'effets 3D qui vont permettre de créer un relief et donc d'apporter toujours plus de valeur ajoutée.
1, 2, 3.
Et puis même à la plage, honte à celui qui ne sera pas écolo-citoyen, comme dit un professionnel. Les imprimés ne seront plus fabriqués avec des produits susceptibles d'abîmer les océans. L'entreprise de Maria Angela Procia fabrique des maillots de bain durables.
Nous faisons beaucoup d'attention à ne pas utiliser beaucoup d'eau, beaucoup de colorants chimiques.
Du coup, un maillot de bain un peu plus cher, à partir de 100 euros, admet Lorenzo Ghezzi de l'entreprise Carvico.
Nous utilisons toujours des fils qui sont de très haute qualité.
Encore quelques mois d'attente avant de porter un maillot de bain, mais les fabricants se préparent dès aujourd'hui. Avouez, on a hâte d'y être.
Le reportage de Julien Fautrin. Enfin, bon anniversaire à Alain Delon qui fête aujourd'hui ses 80 ans. Lui aussi, Bernard, était en maillot de bain avec Romy Schneider dans le film La piscine. Personne ne l'a oublié.
Certainement pas. Et sûrement pas Monsieur Perrault qui en a encore des sueurs froides. Merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon dimanche, Yann Boucherie. Voici les pronostics de Jérôme Bernardet pour le Quintet d'Auteuil. Jérôme propose 3, 4, As, 11, 9, 7, 15 et 5. 3, 4, As, 11, 9, 7, 15 et 5. Sa dernière minute étant le 4, Perli de Clermont. Et puisque c'est très gentiment demandé de la part de Gérald, qui est à Tours, qui est pêcheur, je le sais, qui nous écoute tous les week-ends, il voudrait avoir des précisions sur l'affaire du silure qui a été pêché dans le Petit Rhône. 2,73 m de long, Gérard, 130 kg.
Ah,
c'est le record du monde. Bonne chance pour les galets, en tout cas. Je vous souhaite une très très bonne émission, car il est 10h11, donc je m'éclipse très très vite. Je vous laisse le micro. Bonne musique, Vincent.
Merci Bernard, à la semaine prochaine.
Ciao, ciao, bye.
Ciao.